Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Médias.
Les médias, les infos avec vous pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien Lafargue. Merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Vous avez réalisé un document concernant Éric Zemmour pour complément d'enquête. Ce qui sera diffusé ce soir à 23h. Veni, Vidi, Vichy. C'est réalisé par Lilia Melcognan, Mathieu Régnier et vous qui avez mené cette enquête. À 10h30, on reviendra sur ce policier qui a été agressé, policier en civil, de plus en plus de violences contre les policiers. Nous, on recevra Mathieu Vallet, porte-parole et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires. Gilles, la question du jour.
La question du jour est un peu provoque parce qu'elle est liée au doc, mais il faut dire que le titre est fort, hein, de complément d'enquête, hein, Vini, Vidi, Vici. On ne se dit pas que ça...
Vichy, pas Vichy.
Vichy, oui,
Vichy, V-I-C-H-Y, le jeu de mots est là. C'est pas,
oui, ouais. Ce n'est pas du latin. On se dit que quand même, ça va taper fort et on s'est demandé si le service public est-il anti-Zemmour? On s'est posé la question et on vous l'a posé sur le compte Twitter de Sud Radio. Bon, bah, c'est pas une grosse surprise. Hein. Nos auditeurs nous disent oui à 77%, non à 23%. Et je tiens à vous faire remarquer, Valérie, qu'on a mis la question il n'y a pas longtemps et ça vote énormément sur le compte Twitter. Est-ce que vous pouvez quand même parler, vous, au nom de la rédaction ou c'est compliqué?
Ça va peut-être va pas vous étonner. Je suis pas du même avis. Chez nous, il s'est exprimé, Éric Zemmour, dans le documentaire. En tout cas, jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où il a bien voulu. Donc non, en fait, chez nous, il est présent.
Il est présent chez vous, mais c'est vrai qu'il y avait eu sur France Info un journaliste qui avait dit « Nous ne le recevrons pas tant qu'il ne sera pas candidat ». Donc c'est en tout cas un sentiment visiblement, une perception de nos auditeurs qui est que le service public est hostile à Éric Zemmour. Mais on peut à l'inverse dire que certaines chaînes...
Et qui refusent de répondre d'ailleurs dans le documentaire. Moi j'étais très surpris.
Cette scène est assez glaçante, hein, la scène où vous essayez d'interviewer Éric Zemmour, justement, vous allez le voir sur le lieu d'une signature.
C'est un peu, je pense, un peu un point de rupture, hein, dans le tournage, parce qu'il a participé, alors je dirais pas assez volontairement, mais le début du processus s'est passé comme ça se passe assez souvent. On peut commencer à tourner, on l'a rencontré. Premier tournage avec Éric Zemmour, c'était le 14 juillet, c'est la dernière de l'émission Face à l'info,
ouais.
Et on le voit devant CNews. Et on le dit, il est assez détendu à ce moment-là parce que c'est la séquence des vacances qui va commencer. C'est le jour de fête nationale, c'est la dernière de la saison. Et il répond à nos questions. Et à la rentrée, les choses se sont un peu compliquées. Mais je dois dire que pour lui, les choses se sont compliquées aussi parce qu'il y a eu un emballement de cette campagne qu'il n'a pas maîtrisé lui-même.
Ouais.
Et qui, je crois, parfois l'a un peu effrayé lui-même.
Et dépassé peut-être, on va en reparler. On va passer au zapping, Gilles.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Au Fiderzen Mutter, la France a dit au revoir à Angela Merkel. Eh bien Valérie, on a bien mangé, comme le relatait BFM.
Angela Merkel, visiblement détendue, signe sa dernière visite en tant que chancelière allemande à Bonn, en Bourgogne.
Le président français a trouvé un superbe lieu où l'on peut vraiment découvrir la France en dehors de Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris.
Avec émotion et en utilisant le tutoiement, le président salue le parcours exceptionnel de la chancelière.
Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer. Je crois que nous avons ensemble bousculé beaucoup de choses.
Une visite qui ne pouvait se terminer sans un dîner en petit comité concocté par le chef étoilé Johan Chapuis. Au menu, pâté en croûte, truffes, bœuf du Charolais, fromage et chocolat.
Ça donne envie, hein.
Ah oui, mais
ils ont bien mangé. Hein. Ouais. Angela, qui est bien mieux en France, Valérie, qu'en Allemagne, où les cas de Covid des non-vaccinés explosent. Bah, c'est assez logique, hein, le virus circulant toujours. Eh bien, c'est à cette population non protégée qui se retrouve à l'hôpital.
Les autorités évoquent une quatrième vague qui frappe de plein fouet le pays. Le problème, selon elles, les personnes non vaccinées.
Nous vivons actuellement une pandémie des non vaccinés et elle est massive. Le nombre d'infections augmente, de même que le nombre de morts du Covid dans certaines régions d'Allemagne. Des régions où les taux de vaccination sont bas.
En Allemagne, près de 67% de la population a reçu 2 doses de vaccin actuellement. Le porte-parole du gouvernement évoque de possibles restrictions si la situation se dégrade encore dans les prochaines semaines.
Alors Valérie, peut-être un jour, il faut demander à notre invité, il y aura peut-être un complément d'enquête sur Marlène Schiappa. Alors, je vous avais parlé du Marlène Schiappa Tour. Quotidien sur TMC nous a proposé le Valérie Pécresse Tour, vous savez, avec ses meilleures punchlines humoristiques. Elle est devenue assez comique. Alors nous, ce qu'on a fait avec le réalisateur, c'est qu'on a rajouté sur le reportage de Quotidien, on a mis des rires à ses punchlines. Vous allez voir, ça marche pas mal. Tremble, Gad Elmaleh.
Pécresse a joué la carte humour, on avait l'impression d'assister à un stand-up.
Vous avez bien compris qu'avec Emmanuel Macron, l'addition c'est après les élections. On a d'abord eu Jean Castex qui est allé à la télé pour nous expliquer que le prix de l'électricité allait être gelé. Gelé jusqu'à quand déjà? Avril? Mais qu'est-ce qui se passe en avril? Moi je ne sais pas comment on fait avec un président qui le lundi dit blanc, le mardi dit bleu, le mercredi dit rouge, le jeudi s'arrête pour se demander de quelle couleur va être le vendredi.
J'ai déjà pris mon ticket, moi je suis prêt à aller voir ma Valérie Pécresse et son tour humoristique, Pécresse. On va parler de Zemmour donc bientôt, qui cristallise donc tous les discours et les interviews de nos politiques, mais pour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ça n'aura qu'un temps et pour lui Éric Zemmour n'a pas les épaules pour être politicien.
Zemmour, être sûr qu'il tiendra la distance, et moi je ne le crois pas, parce que la campagne présidentielle c'est extrêmement difficile. Vous avez une caméra tous les jours, vous avez une pression très très forte, c'est humainement très très vite, la famille, l'ensemble de l'entourage est sous pression, et donc c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et la présidentielle, il faut avoir une solidité, et je crois que Zemmour n'est pas préparé à ça. Il est préparé à faire des conférences, à faire des bouquins, à faire des speeches, mais dans ce que va être la pression, je ne suis pas sûr qu'il aura la puissance.
C'était dans C'est à vous et c'était en réaction, vous savez, sur les soutiens de Zemmour qui sont parfois mis en cause sur des personnages peu recommandables. Vous pensez qu'il a les épaules pour être président? Vous qui l'avez rencontré.
Ce qu'on peut constater, c'est en effet dans les rencontres littéraires, vous savez, ces meetings qui ne disent pas leur nom, la ferveur, la puissance militante est là. Et puis, il y a cette dynamique qu'on observe tous. Après, vous me demandez une question à laquelle il est difficile de répondre aujourd'hui.
Oui, absolument. Est-ce que vous pensez qu'il ira au bout? Parce que certains pensent qu'il n'ira pas au bout.
Alors, il y a la question des signatures. Là encore, certains vous disent que les relais dans les petites collectivités, dans les petites villes, dans les petites communes, c'est OK. D'autres vous disent absolument l'inverse. J'avoue que nous, en fait, ce qu'on a souhaité faire, c'est pas tellement la coulisse de la campagne, c'est bien plus de comprendre la trajectoire.
La trajectoire, c'est un portrait que vous avez fait du. Donc, c'est ni à charge. Enfin, il y a des passages un petit peu difficiles, mais c'est assez factuel.
C'est pas voter Zemmour, hein.
C'est assez factuel tout de même, je trouve.
Ce qu'on a voulu faire, c'est expliquer que si on en est là aujourd'hui, s'il est très probablement candidat demain, bientôt, c'est parce que ça s'explique, parce qu'il y a 40 ans de vie où tout a été mis en place pour qu'il se retrouve aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Concrètement, on informe le présent en éclairant le passé, en fait. C'est ça qu'on a fait.
Oui, mais vous dites que dans le passé, il disait déjà toutes les choses qu'on entend maintenant. Vous avez des anciennes émissions avec Thierry Ardisson et autres. Est-ce que ça prouve pas, et c'est assez rare en politique, que l'homme est assez constant?
Je pense qu'on peut pas lui faire le reproche de l'inconstance. Vous avez raison, Gilles, là-dessus. Oui, c'est ça. C'est que il y a eu tout un tas de petits cailloux qui ont été posés pendant 40 ans. En effet, si vous faites l'effort de lire les livres comme on l'a fait, si vous faites l'effort de reprendre les déclarations les unes après les autres, alors à ce moment-là, le puzzle est parfaitement assemblé et vous vous dites. C'est bien sûr.
Vous avez encore un son?
Non, j'avais un son, mais on va le faire pour demain, parce que ça n'a aucun rapport.
D'accord.
Mais par contre, on a la bande-annonce, comme ça, ça va poser ce qu'on va voir ce soir.
Alors, la bande-annonce donc, du documentaire Veni, Vidi, Vichy, V-I-C-H-Y, c'est pas forcément évident au son, mais ça l'est quand on le lit, reportage donc, qui a été lancé en mai dernier, que vous pourrez voir ce soir à 23h sur France 2 dans Complément d'enquête. Écoutez la bande-annonce.
Jeudi soir, complément d'enquête présenté par Tristan Walex.
Ces clashs à répétition sont omniprésents sur vos écrans.
Non, je me calme pas, parce que votre ton d'institutrice, j'en ai jusque-là.
Complément d'enquête vous raconte l'autre face d'Éric Zemmour, sa stratégie pour inonder la presse de ses provoques.
Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
Comment ce défenseur du mâle blanc, condamné pour provocation à la discrimination raciale et qui réécrit l'histoire de Vichy, est-il devenu un candidat crédible pour une partie de l'opinion? Décryptage de la méthode Zemmour et de ce qui pourrait la faire dérailler.
Un nouveau numéro de complément d'enquête, jeudi soir après Envoyé spécial sur France 2.
Alors vous avez eu du pif, ce qui est une bonne qualité quand on est journaliste, parce que vous avez commencé effectivement ce reportage avant même l'emballement médiatique autour du candidat Zemmour.
Dès le printemps.
Oui.
Dès le printemps, parce que c'était en effet dans l'air du temps. Et puis peut-être que vous vous rappelez, mais il y avait, ça aboutit donc à la décision de CNews, suite à la demande du CSA de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour sur CNews. Mais il y avait déjà cette petite musique au printemps sur il parle beaucoup trop, comment se fait-il qu'il a autant de temps de parole alors qu'on pense qu'il a des velléités pour cette élection présidentielle. Donc à ce moment-là, voilà, on s'est dit que, bah, en effet, ça allait être évidemment un personnage de la rentrée. Et puis, moi, je suis allé au congrès du Rassemblement national à Perpignan début juillet. Le Rassemblement national venait de souffrir sévèrement dans ses résultats électoraux, les régionales. Et je peux vous dire qu'on parlait que d'une seule chose à ce moment-là, dans les travées du Palais des Congrès de Perpignan, c'était d'Éric Zemmour. C'était le sujet. Donc bon voilà, c'était assez évident.
Donc comment on enquête sur Éric Zemmour? Est-ce que c'est plus compliqué que pour un autre reportage? Est-ce que vous avez eu des pressions?
Non, on a ce qu'on a plutôt subi, c'est le refus dans un deuxième temps d'Éric Zemmour de participer à ce reportage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu regretté parce que les choses avaient plutôt bien commencé. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, les équipes d'Éric Zemmour ont dans un premier temps jugé qu'il y avait un intérêt à partager avec nous un certain nombre de choses et de participer à ce reportage. Et puis, dans un deuxième temps, en effet, la porte s'est fermée, assez brutalement, d'ailleurs. Et voilà, donc, les choses, elles se... Mais ça, j'allais dire, c'est quand même un processus qui est assez classique, mais... là, on avait commencé, en fait. Une histoire avait commencé à se faire.
Ce qui est assez surprenant dans ce qu'on va voir ce soir, c'est que tous les partisans ou ceux qui sont pour Zemmour, ce sont que des gens du Front National ou des anciens du Front National. Vous n'avez aucun partisan de Zemmour dans votre documentaire de Génération Z ou autre. Il n'y en a aucun qui parle. Vous ne faites que parler des gens du Front National.
Génération
comme
Z...
si, parce que lui ne se dit pas du Front National, il se dit du RPR. Et donc, ça aurait été bien aussi de savoir ce que les anciens du RPR pensaient de lui et pourquoi il n'y a pas de gens qui soutiennent Éric Zemmour et qui ne soient pas du Front National.
Vous parlez de Génération Z, c'est la force militante la plus active autour d'Éric Zemmour. Et je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on n'a pas fait un film de campagne en fait. Notre ambition, c'était pas de faire la coulisse. Je pense que la coulisse est largement couverte par d'autres. Et on attend complément d'enquête sur un autre exercice.
Pardon
de le dire avec un peu plus d'ambition.
Et
l'idée, c'est pas d'aller voir des couleurs d'affiches.
C'est vraiment
en fait.
la construction effectivement de l'homme, de cette d'où il vient,
exactement.
D'où il vient, et puis vous avez des témoignages assez glaçants, deux témoignages de femmes qui ont été agressées par Éric Zemmour, dont une qui témoigne à visage découvert, qui est une élue, qui raconte, et une autre jeune femme qui, elle, témoigne masquée, mais avec sa voix, et qui n'avait pas porté plainte à l'époque.
Ouais, alors c'est Mediapart qui a révélé ces témoignages dès le mois d'avril. Nous, en effet, on a eu, et c'est une première en télévision, l'une de ces femmes qui accuse Éric Zemmour a accepté de témoigner dans complément d'enquête. C'est des témoignages qui sont, nous semble-t-il, intéressants parce qu'on doit les mettre en perspective avec cet essai qu'avait publié Éric Zemmour en 2006, le premier sexe. et dans lequel il pose sa vision des rapports hommes-femmes. Et notamment, il explique, et il l'a dit à nombreuses reprises dans les interviews promo autour de la sortie de cet essai en 2006, il explique que l'homme est un prédateur sexuel civilisé. Et il nous a semblé assez, assez intéressant, au regard de cet essai publié, de questionner ces femmes.
Pourquoi elle a accepté de parler ?
C'est toujours compliqué. Je pense que pour ces femmes, elles estiment assez simplement qu'il y a un moment est venu. Vous savez, Anne, qui s'exprime dans ce reportage, elle nous explique que pendant longtemps, elle n'a pas eu forcément conscience. En tout cas, si on reprend ces mots, elle dit qu'elle n'a pas eu conscience d'avoir été agressée. Alors, à ce stade, j'insiste, il y a aucune plainte qui a été déposée. Tous ces faits, Éric Zemmour, évidemment, bénéficie pleinement de la présomption d'innocence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne fais que reprendre les mots du témoignage d'Anne dans ce numéro de complément d'enquête.
Ouais. Oui, et puis vous avez... c'est un passage qui m'a fait rire. Comme quoi, il est très civilisé. J'ai un trou, la femme de... vous savez qui dit « Je l'aime beaucoup parce qu'il ouvre la porte
d'un... » Isabelle
Balkany, excusez-moi, c'est vrai que vous avez des défenseurs d'Éric Zemmour. Et le passage d'Isabelle Balkany, c'est formidable.
On n'a pas eu forcément la possibilité toujours de poser toutes nos questions à Éric Zemmour, on l'a regretté, mais vous aurez observé qu'on a pris soin de rencontrer un certain nombre de ses amis et de ses soutiens, finalement. Isabelle Balkany s'exprime dans ce reportage.
Est-ce que, pour revenir au témoignage de la jeune femme qui l'accuse d'agression sexuelle, c'est une des choses qui peut le faire abandonner ?
Il aurait confié à certains de ses soutiens qu'il redoutait ce genre de...
De déballage, ou de révélation.
Olivier Pardot, son avocat, explique que de toute façon, ça fait partie, si vous voulez, d'une certaine façon, du décorum d'une campagne présidentielle. Ouais.
Et puis, puisqu'on est une émission média, l'autre partie dans le documentaire est le silence de CNews et de la chaîne Canal+ et de Bolloré. Dans le documentaire, vous êtes procuré des documents d'une assemblée entre les dirigeants du groupe Bolloré et de Canal+. Et là où ils sont conscients du problème Zemmour, mais ils se disent que finalement, pour l'audience, on va quand même le garder, c'est ça?
Vous suivez les médias avec attention, c'est quand même une chose rare. Vous imaginez, en 2 ans, la progression de cette émission, ce qui est devenu cette case, à 19h.
Plus de 900 000, des fois, plus d'un million.
Alors, ils ont commencé, je crois, aux alentours de 90 000, 100 000.
Ouais. Ça n'a fait que croître.
Le million, parfois, est dépassé. Ils sont devant BFM certains soirs à cette heure-là. On sait aussi comment fonctionnent les médias. Non, après il y a d'autres questions qui sont intéressantes avec CNews. C'est en effet, on a eu on a pu s'entretenir avec des salariés de CNews. On ressent bien la difficulté pour ces gens-là à parler. Il y a une sorte de climat de peur d'une part. Et puis on nous décrit, et c'est surtout ça qu'on doit retenir, la façon dont cette émission est construite autour d'Éric Zemmour, sur mesure. Personne n'a vraiment accès à ce qu'il fait, quels sont ses papiers, qu'est-ce qu'il va dire.
Vous avez essayé d'avoir Christine Kelly, par exemple, ou des gens qui travaillent avec lui?
Oui, on a lancé tous azimuts. Il n'y a vraiment pas eu de possibilité d'accès, aucune en fait.
Il y a une séquence très forte, on va pas tout raconter, mais c'est Satouci qui revient sur ce qui s'était passé, la fameuse séquence où il dit vous auriez dû vous appeler Corinne. Vous avez un extrait d'une réunion avec Thierry Ardisson où elle s'en va. Enfin, et on voit qu'elle est toujours assez ébranlée par cette...
ce que montre ce témoignage, qui est un témoignage, je pense, très fort. Et puis, là encore, c'est la première fois qu'Ab Satouci revient comme ça par le menu sur cette histoire. Absatoussi, c'est quelqu'un, en effet, qui aujourd'hui est extrêmement marqué par cette histoire.
Ouais. Ouais. C'est, en tout cas, moi, j'ai trouvé que le document était très, très factuel. Après, il y a des éléments, effectivement, qui sont plutôt à charge, mais sur cette progression que vous montrez assez bien, et puis il y a cette scène du début avec Jean-Marie Le Pen qui est tellement drôle.
On nous dit dans le documentaire s'il n'y a pas forcément une filiation spirituelle. Il y a au minimum un héritage médiatique, une filiation médiatique. Il y a une méthode, en fait. Et c'est bel et bien ça que vous allez voir ce soir dans le complément d'enquête.
Voilà, puis en bonus, vous avez quand même le petit précis du bracelet électronique par Isabelle Balkany, qui est un moment assez savoureux.
La séquence est savoureuse. Ouais. Mais c'est en tout cas à voir ce soir, complément d'enquête, Zemmour, Veni, Vidi, Vichy. Le titre est très provoque par rapport au contenu, je trouve, parce que le contenu est plus mesuré, j'ai envie de dire, plus factuel et plus moins scandaleux.
C'est bien, ils ont pris le marketing à France 2.
Mais un document à regarder, parce que vous allez retrouver des documents d'archives. Vous avez fait un sacré boulot, justement, pour retrouver d'anciens discours, d'anciennes... Et Virginie Legay aussi, qui s'exprime tout à fait... la journaliste de Paris Match, qui l'a bien connue.
Au quotidien de Paris.
Ouais, et qui raconte le collègue qu'elle a eu. Hein, et elle est courageuse dans ce qu'elle dit, Virginie Legay.
Vous me posiez la... Oui. Virginie Legay, elle raconte son ressenti de ce personnage qu'elle a croisé dans la rédaction. Est-ce qu'elle nous raconte aussi, d'une certaine façon, c'est... Parce que vous me disiez tout à l'heure, est-ce qu'il va aller au bout, etc. Je ne sais pas. Mais ce qu'elle raconte aussi beaucoup, et d'autres nous l'ont raconté, c'est ce côté solitaire d'Éric Zemmour. Éric Zemmour partageait pas tellement de moments à la rédaction du Quotidien de Paris, et je pense pas forcément beaucoup d'autres dans d'autres rédactions. À CNews, c'est une évidence que non, il se mélange pas à la rédaction. Dans une aventure présidentielle, vous êtes avec les autres, et vous la faites avec les gens, et avec les Français, et éventuellement un parti, c'est mieux. Donc voilà, ça, là-dessus, il y a un questionnement, il y a une interrogation. C'est pour quelqu'un qui est complètement dans une approche solitaire, et qui a toujours déroulé sa vie, sa carrière de façon très solitaire.
Non, c'est quoi son but,
c'est
de détruire Marine Le Pen. C'est ça en fond plutôt que d'être président.
Si
je vous lis entre les lignes.
Il faut interroger les grands spécialistes de la politique, mais je peux vous dire que lorsque j'étais à ce congrès du Rassemblement National à Perpignan début juillet. Cette reconstruction de la droite, tous les militants du Rassemblement National l'ont en tête. Et bien au-delà, naturellement. Ouais. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la droite hors les murs, en fait. Et c'est cette fameuse recomposition de la droite. Mais Éric Zemmour, il s'en cache pas tellement de ça. Il l'a exprimé à plusieurs reprises, qu'il voulait recomposer cette droite avec une idée de synthèse quelque part entre LR et le Rassemblement National.
Ce matin, Robert Ménard était sur Sud Radio dans la matinale et il disait qu'il pensait qu'Éric Zemmour n'était pas fait pour gouverner et qu'il était beaucoup trop brutal et clivant. Donc, on voit Robert Ménard qui est proche de Marine Le Pen, qui commence un petit peu à...
Ambigu, Robert Ménard.
Oui, très ambigu, absolument.
Une fois oui, une fois non. Fois, Éric Zemmour, c'est une bonne idée. La fois d'après, c'est une moins bonne idée.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Sébastien Lafargue. Donc, ce soir, complément d'enquête à 23h. Ne manquez pas ce document, si vous voulez comprendre l'ascension d'Éric Zemmour, avoir et revoir un petit peu son parcours. Merci à vous.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour parler des violences contre les policiers qui se multiplie. À tout de suite.